Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiphaine de Rocchini, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson, et ce matin, c'est Bruno Gagné à Fontanille à la console. On clôt notre semaine consacrée au nouveau territoire du djihad guerrier par une interrogation autour du groupe terroriste qui fut longtemps l'ennemi numéro 1, Al-Qaïda, littéralement la base, présentée depuis quelques années comme étant en perte d'influence sur la voie du déclin. Et si finalement c'était pas le cas? Et si finalement le recul de Daesh sur le front militaire faisait apparaître une réalité bien différente? Du déclin de Daesh au retour d'Al-Qaïda, la résilience du djihadisme international. C'est notre sujet ce matin.
By aiding and abetting murder, the Taliban regime is committing murder.
En autorisant le meurtre, le régime taliban est également responsable de ces mêmes meurtres. Et ce soir, les États-Unis font la demande suivante aux talibans: délivrer aux autorités américaines tous les leaders d'Al-Qaïda qui se cachent sur vos terres.
Merci à nos services, aux sacrifices et à la bravoure des hommes et des femmes en uniforme. La guerre en Irak est terminée. La guerre en Afghanistan tire à sa fin. Al-Qaïda a été décimé. Osama bin Laden est mort. Nous avons porté des coups dévastateurs à Al-Qaïda. Nous avons livré la justice à Osama bin Laden. Nous avons renforcé notre sécurité intérieure et nous avons empêché des attaques. Nous avons sauvé des vies. Nous sommes résolus à continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ce pays que nous aimons.
De la guerre contre le terrorisme déclarée par George W. Bush au lendemain du 11 septembre à Barack Obama annonçant la fin d'Al-Qaïda avec la mort de son chef Osama Ben Laden. De fait, grâce à la stratégie de décapitation des États-Unis, Al-Qaïda a vu un certain nombre de ses responsables disparaître. Son chef charismatique, bien sûr, et cofondateur, tué en 2011 au Pakistan par un commando de la CIA à Abbottabad. Mais d'autres sont tombés sous les bombes de drones américains l'année suivante, par exemple, toujours au Pakistan, le numéro 2, Abu Yahya al-Libi, avait été tué en juin 2012 dans le Nord-Waziristan, la zone tribale frontalière de l'Afghanistan. Plus récemment, en début d'année, c'est Jalal Belaidi, le responsable d'Al-Qaïda au Yémen, qui perdait la vie dans une frappe américaine. Et d'ailleurs, son prédécesseur, Nasser al-Waishi, avait lui aussi péri dans un bombardement l'année précédente. Mais au-delà de ces pertes du côté d'Al-Qaïda, c'est surtout l'émergence d'une nouvelle entité djihadiste mondiale, ancienne franchise qui s'est émancipée, éclipsant la maison mère. En effet, l'avènement de Daesh et la création d'un proto-État par l'autoproclamé calife Abu Bakr al-Baghdadi à cheval sur l'Irak et la Syrie lui a permis d'attirer dans ses rangs de nouveaux combattants. Al-Qaïda ringardisé par l'arrivée de Daesh, la base imaginée par Ben Laden et son maître, le cheikh Abdullah Yusuf Azam, dit l'imam du djihad, le père du mouvement djihadiste mondial, serait-elle en train de trembler sous le poids de Daesh? Pas si sûr quand on regarde les choses de près. En réalité, Al-Qaïda n'a jamais vraiment disparu. Et peut-être même que finalement, son avenir serait plus assuré que celui de l'État islamique, avec une branche réputée la plus redoutable au Yémen et des ramifications très actives au Maghreb et même en Syrie, où il n'aurait pas complètement disparu, mais aussi avec une certaine influence chez les Chebab de Somalie ou encore les talibans d'Afghanistan. Le phénix renaît-il de ses cendres? Que nous disent aussi les projets religieux et politiques respectifs de Daesh et d'Al-Qaïda quant à leur capacité à se maintenir dans le temps? Voilà la grande question qu'on va se poser ce matin avec deux invités. D'abord, ici avec nous en studio, Adam Bachko, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, vous êtes doctorant à l'EHESS. Vos recherches portent notamment sur la question de l'exercice de la justice dans les mouvements armés, notamment en Syrie et en Afghanistan. Je parle de la Syrie, vous êtes, il faut le mentionner, auteur avec, co-auteur avec Gilles Doron-Soro, de Syrie, anatomie d'une guerre civile, qui est paru aux éditions du CNRS. Vous avez récolté des dizaines de témoignages en Syrie, et à partir desquels vous avez essayé finalement de comprendre ce qui se passait aujourd'hui en Syrie et ce que pourrait devenir ce pays. À vos côtés, en duplex avec nous depuis Aix-en-Provence, François Burga, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM d'Aix-en-Provence. Vous êtes, vous, auteur de notamment l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, mais aussi comprendre l'islam politique, une trajectoire sur l'altérité islamiste. On va ensemble, bien sûr, évoquer cette question, cette hypothèse qu'on pose sur la table d'un éventuel retour d'Al-Qaïda. Adam Bachko, c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, depuis l'avènement de Daesh et de son autoproclamé califat, on avait l'impression que cette nouvelle entité du djihad mondial avait tout balayé sur son passage, et notamment balayé Al-Qaïda, la maison mère. Et on voit qu'avec le recul de Daesh en Syrie, on est peut-être en train de redécouvrir finalement le réseau Al-Qaïda et son influence. Regardons par exemple l'actualité. Le dernier attentat du côté de New York, son responsable, Ahmad Khan Rahami, nationalité américaine, mais aussi afghane. Il s'était rendu il y a 2 ans en Afghanistan, où il se serait radicalisé. On a retrouvé sur Rahami un carnet de notes qui attesterait de son goût pour les idéologies radicales. Et évidemment, le document de l'inculpation indique qu'il fait référence à Oussama Ben Laden, qualifié de frère, et Anwar al-Awlaki, qui est un idéologue d'Al-Qaïda, très connu, dans la péninsule arabique en l'occurrence. Est-ce qu'il faut y voir là le signe qu'Al-Qaïda a retrouvé son influence ?
Je crois déjà qu'Al-Qaïda n'a jamais perdu son influence. C'est simplement que l'État islamique est devenu à un moment beaucoup plus visible, avec une stratégie qui lui a amené une attention beaucoup plus grande et qui lui a donné pendant un temps, qui a donné le sentiment aux gens musulmans, occidentaux, qu'on avait en face un mouvement avec une croissance exponentielle qui avait la possibilité de faire quelque chose d'inédit. En parallèle, Al-Qaïda n'a jamais perdu réellement son influence. C'est resté un mouvement dont les branches étaient fortes, étaient actives, et dont la stratégie se révèle aujourd'hui beaucoup plus payante à long terme, je pense, que celle de l'État islamique.
On va voir justement en quoi les stratégies diverses. François Burguin, en première analyse, votre regard sur cette idée d'un retour d'Al-Qaïda, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit que la force de la communication extrêmement moderne de Daesh avait pris de court d'une certaine manière et peut-être marginalisé Al-Qaïda. C'est évidemment vrai que c'est un élément qui a permis à Daesh d'attirer de nouveaux combattants, de plus en plus, peut-être même d'en siphonner, j'allais dire, à Al-Qaïda. Mais on sait, bien sûr, évidemment, combien cette communication, elle est centrale. C'est d'ailleurs le chef d'Al-Qaïda lui-même, Ayman al-Zawahiri, qui avait dit que le djihad médiatique, c'est la moitié du combat. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu minimisé les capacités de résistance d'Al-Qaïda, François Burguin ?
Oui, je le dirais différemment, sans minimiser aucunement l'intérêt qu'il y a à s'interroger sur les strates respectives d'Al-Qaïda et de Daesh dans cette révolte d'une partie du monde musulman contre les Occidentaux. Je dirais que pour moi, il est important d'affirmer que c'est la continuité qui l'emporte. Nous sommes bien face à une confrontation unique, née des excès des politiques occidentales dans une région du monde, et puis qui s'est ensuite, ça c'est la vraie nouveauté, bien sûr, corrélée un petit peu plus rapidement, un petit peu plus systématiquement, avec les dysfonctionnements des politiques intérieures des pays occidentaux, ce que j'ai appelé la globalisation du ressentiment. La nouveauté de l'heure, c'est qu'il y a plus de citoyens de nos nations qui participent à l'expression de ce ras-le-bol contre nos méthodes dans le monde musulman qu'il y en avait à l'époque de Ben Laden. Mais je pense que je suis tout à fait sur la longueur d'onde de ce qu'a dit Adam Bachko, c'est-à-dire que Al-Qaïda n'avait pas disparu, simplement la stratégie employée par Daesh a très conjoncturellement lui a donné une visibilité. Il y a ce fameux coup de poker de la territorialisation, de la prise de Mossoul, cet aller-retour entre une façon de capitaliser des moyens en Irak et d'aller les exploiter et les expliciter en Syrie, qui fait que Daesh, effectivement, avait pris le pas en termes de visibilité. Mais je vais aller plus loin, je vais dire attention à l'idée que Daesh est en train de disparaître. Daesh, sur le plan militaire, c'est quelques dizaines de milliers de combattants qui sont la cible des aviations d'à peu près toute la planète, avec les milices ou les armées de tous les pays environnant le champ de bataille. Donc même ce recul strictement militaire de Daesh
n'est pas définitif.
Sinon, on ferait, à mon sens, la même erreur que Bush ou qu'Obama, qui, chacun sur leur registre, chacun à des moments de l'histoire de cette guerre contre la terreur, nous ont annoncé des victoires dont on sait maintenant qu'elles n'existaient pas.
Vous parlez d'erreur d'appréciation, François Burga. Vous parliez de continuité à propos de Daesh et d'Al-Qaïda. Est-ce que ça veut dire qu'on en a fait trop sur l'opposition entre Daesh et Al-Qaïda ?
Oui, oui, à mon avis, c'est pas, je dis souvent, c'est pas un gisement de connaissances. C'est deux moments, c'est deux contextes. Alors, on peut, pendant des heures, parler des différences. Elle est générationnelle. Il y a Papi Zawahiri et puis Zarqawi qui est plus jeune. Il y a le contexte qui est l'Afghanistan pour la naissance d'Al-Qaïda, ou disons pour la cristallisation. On aura peut-être le temps de dire que la première fois que des gens ont pris des Kalachnikov et se sont mis à crier Allahu Akbar, c'est au Yémen, sous le coup d'une irruption soviétique dans le tissu politique du Yémen du Sud. Mais bon, ça, on y reviendra. Mais disons que il y a une différence générationnelle, il y a une différence tactique qui est très importante. C'est peut-être celle-là qu'il faut souligner. C'est que Ben Laden s'est rendu célèbre en disant « On va cesser de s'en prendre à l'ennemi proche, Moubarak, Ben Ali, les dictateurs arabes. On va s'en prendre à l'ennemi lointain, ceux qui permet, celui qui permet à ce système de perdurer, c'est-à-dire les États-Unis. »
Et c'est même plus que ça, Zawahiri, pardon. Bah, on peut même aller plus loin, peut-être, François.
Il a inversé cette problématique. Il a dit, non, maintenant, on va revenir aux ennemis proches. Mmh. Alors, quelle est la différence? C'est que les ennemis proches, dans le contexte de la guerre irakienne qui a cristallisé Al-Qaïda, nouvelle version, qui a donné Daesh, l'ennemi proche, il est pas seulement les États-Unis. Il est les États-Unis qui font irruption dans le tissu politique irakien post-Saddam, mais il est aussi les bénéficiaires, hein, le bras armé des Américains. C'est une terrible caricature, mais les chiites vont apparaître depuis quelques années comme les collabos, hein, comme les collaborateurs du bras armé des Occidentaux ou des Russes. C'est ça l'autre nouveauté, la grande nouveauté du paysage international dans lequel va se cristalliser Daesh et dans lequel continue à évoluer Al-Qaïda, c'est que les Russes ont pris le relais de l'URSS. Mmh. Et le paradoxe, c'est que les Russes et les Américains font un petit peu la même chose. Hein. Une ingérence décisive, une ingérence militaire décisive dans le tissu de cette région, au profit d'acteurs que les gens d'Al-Qaïda et de Daesh définissent, les gens de Daesh plus naturellement encore que ceux d'Al-Qaïda, définissent comme des chiites, définissent sur une base sectaire. Donc l'une des différences très importantes, mais je dirais du contexte plus que des deux organisations, c'est que l'ennemi sectaire a pris maintenant une place qu'il n'avait pas dans le contexte afghan. Mmh. Alors ça, c'est une des différences, à mon sens, assez importantes.
Pour poursuivre, Adam Bachko, justement sur ces différences, François Burga nous dit effectivement la stratégie de Ben Laden, c'était de s'en prendre à l'ennemi lointain, mais on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire que la stratégie, c'est aussi d'avoir une bonne relation, j'allais dire une relation quasiment de bon voisinage avec les voisins directs. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée chez Ben Laden de gagner le cœur et les esprits, pour reprendre cette formule, des populations locales.
Oui, oui.
Si, et donc, il n'y a pas cette idée de semer la terreur et le chaos.
Alors, je crois que là où je suis tout à fait d'accord
avec... Pas sur son territoire d'implantation, en tout cas, soyons clairs, pardon.
Là où je suis tout à fait d'accord avec François Burga, c'est que sans aucun doute, il y a une compatibilité absolue entre les stratégies de Daesh et d'Al-Qaïda vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis du monde extérieur. Je pense, en même temps, que la question que soulève François Burga de la concentration sur les chiites, et ce que vous soulevez dans votre question de l'alliance avec les groupes locaux, change fondamentalement les situations dans lesquelles ces groupes vont être prises. C'est-à-dire que Al-Qaïda en Afghanistan et dans les endroits où ils étaient, et je pense qu'ici on a déjà vu des inflexions au Yémen et au Mali, se présentait comme un groupe qui était d'abord une avant-garde. Ça ressemblait beaucoup à une avant-garde révolutionnaire, des professionnels, des spécialistes, mieux financiers, mieux entraînés, capables de faire des coups plus lointains, plus précis. Et là, ce qu'a fait l'État islamique dans un contexte propre à l'Irak, dans des transformations propres à la guerre en Irak, sont devenues fondamentales en Syrie et en Afghanistan, dans le sens où elles changent fondamentalement les sociétés et elles s'articulent à des changements sociaux profonds. C'est-à-dire, par exemple, une société comme l'Afghanistan, où les relations identitaires n'étaient jamais définies en termes religieux. Bien sûr, il y avait la question sunnite-chiite, mais elle était bien moins importante que la question ethnique. C'est quelque chose qu'on voit se renverser pour la première fois et c'est vraiment inédit. Et ça s'articule profondément aux stratégies de chacun des groupes. C'est-à-dire que Al-Qaïda a toujours une stratégie de fonctionner avec les groupes armés locaux dont elle profitait pour obtenir un sanctuaire, pour avancer sa stratégie plus globale. Mmh. Et là, la différence avec l'État islamique, c'est que l'État islamique a toujours eu une stratégie de rejet de toute alliance. La plus grande alliance qu'a fait l'État islamique, c'est les alliances de quelques mois avec l'insurrection syrienne. Encore,
appeler ça une alliance est difficile. Simplement, ils ont accepté de ne pas être en opposition frontale et de même, en 2014, pendant quelques mois avec l'insurrection irakienne. Mmh. Et à chaque fois, c'était après quelques mois, un coup d'État à l'intérieur de l'insurrection syrienne ou irakienne.
Mais au fond, pourquoi cette évolution stratégique? Parce que tout à l'heure, François Burguin insistait sur la continuité, en réalité, de tout cela et des points communs, quand même, effectivement, entre Daesh et Al-Qaïda. Quand on regarde les choses, la première filiale d'Al-Qaïda hors de la zone afghano-pakistanaise, c'est 2003, après l'invasion américaine, octobre 2004, naît Al-Qaïda en Irak, sous l'impulsion de Al-Zarqawi, et puis on a ensuite 2007, une nouvelle filiale qui fait son apparition en Afrique, c'est l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2 ans après, c'est la péninsule arabique qui voit l'émergence d'ACPA, l'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui naît sous la fusion des branches saoudiennes et yéménites. Pourquoi finalement cette mécanique d'externalisation va cesser?
Alors déjà, l'existence de réseaux assez lâches, mais en même temps toujours liés entre les djihadistes, existe avant la multiplication des franchises qui, si vous voulez, résulte de la célébrité d'Al-Qaïda post 2001. Ça veut dire la branche irakienne qui deviendra Al-Qaïda en Irak existe à la fin des années 90. Vous avez des liens entre des djihadistes, entre des combattants étrangers venus en Afghanistan qui sont souvent algériens ou d'autres qui vont aller en Algérie et qui vont garder des liens. L'existence de ces réseaux précède le 11 septembre. Ce qui se passe après le 11 septembre, c'est que Al-Qaïda va engager une stratégie de visibilisation par branche, par franchise, si vous voulez. Et cette stratégie va... Il y a deux niveaux pour répondre à votre question. Il y a un niveau qui est propre à ce qui se passe en Irak, qui est vraiment un changement fondamental. On ne peut pas faire l'économie de comprendre ce qui se passe en Syrie, même en Afghanistan, je pense au Yémen et même au Maghreb, si on ne comprend pas l'effet énorme sur le Moyen-Orient de l'invasion irakienne. Le Moyen-Orient à la manière dont les Américains l'ont défini, c'est-à-dire vraiment ce grand Moyen-Orient de l'Afghanistan au Maroc, à l'Afrique de l'Ouest. L'invasion américaine va changer de manière assez fondamentale la donne, au sens où il ne s'agit plus de quelques bases dans la vision qu'on a au Moyen-Orient de l'ingérence américaine. Il ne s'agit plus de quelques bases, d'épisodes historiques. Il s'agit réellement d'une présence forte, de dizaines de milliers de troupes, d'une invasion qui est difficilement justifiable et qui est justifiée de manière extrêmement innovative, mais assez peu liée en fait aux attentats du 11 septembre. Et ça va amener un changement fondamental puisque le conflit irakien va devenir beaucoup plus important en fait que le conflit afghan.
Alors il y a ce conflit irakien. François Burga, je me tourne vers vous. Vous parliez tout à l'heure d'environnement. Peut-être que là aussi, on peut rappeler un autre élément qui va bouleverser totalement l'environnement. C'est les printemps arabes. Est-ce que là aussi, ça n'a pas joué pour modifier la stratégie finalement du djihad mondial, considérant qu'il y avait là une fenêtre d'opportunité pour peut-être intégrer au fur et à mesure les mouvements insurrectionnels dans les différents pays concernés, François Burga? Est-ce que les printemps arabes n'ont pas joué?
Oui, mais nous ne soutenons pas une étape. Il y a eu dans un premier temps, dans un tout premier temps, et moi-même j'ai souscrit à cette vision. J'ai dit, les ouvertures politiques dans cette région du monde vont limiter les capacités de mobilisation des acteurs du radicalisme qui refusent toute transaction politique, puisque maintenant, d'autres modes d'action... Que l'action armée devienne possible. Moi, j'aime bien citer des exemples nombreux de gens qui ont eu un parcours djihadiste. Abu Zoumer, l'un des co-auteurs, on se demande pourquoi il a échappé à l'exécution d'Anwar es-Sadat, un garçon d'une famille militaire, c'est peut-être ce qui l'a sauvé. Abu Zoumer passe toute sa vie en prison jusqu'à la chute de 81, jusqu'à la chute de Moubarak. Et quand Moubarak tombe, il refuse de s'échapper de prison et il dit non, je reste dans le légalisme. Maintenant, il est possible de faire de la politique autrement et je vais fonder un parti. En Libye, vous avez des gens qui ont fait partie du groupe djihadiste combattant qui était dans les montagnes vertes et qui sont entrés dans la logique politique. Alors, il ne faut pas sauter cet épisode. Dans un premier temps, les mouvements radicaux ont été démonétisés par l'ouverture politique, tant qu'elle est restée crédible. Mais ensuite, très vite, et bien sûr, le cas syrien est explicite, des ingérences extérieures massives vont faire que le processus politique ne suit pas son cours, qu'il n'y a pas de possibilité d'action légale ou même protestataire non violente. Et là, effectivement, les groupes radicaux vont reprendre toute leur superficie. Ma vision générale, je pense que je suis très attaché à cette idée-là. Les groupes radicaux extrêmes. Ceux qui refusent l'insertion dans des institutions politiques n'ont de superficie autre qu'extrêmement marginale que dans les situations où les dysfonctionnements des institutions politiques sont massifs. Or, ce qui s'est passé de grave à l'échelle de la planète au cours des 2-3 années écoulées, je le dis parfois de façon ironique en disant les extrémistes ne jouent plus leur rôle car ils ne sont sortis des extrêmes des sociétés et ils ont été autorisés à se produire vers le centre. Qu'est-ce qui se passe en Irak? Les groupes extrémistes, Al-Qaïda, entrent en interaction positive, Al-Qaïda d'abord, Daesh ensuite, entrent en interaction positive avec des pans entiers de la communauté sunnite qui se sentent ostracisés par l'absence d'institutions. Et je pense qu'il faut revenir sur ce qu'a dit, et nous sommes sur la même longueur d'onde, la grande différence entre Daesh et Al-Qaïda, c'est que l'ennemi, dans le contexte territorial irakien, et la même chose dans le contexte syrien, est devenu sectaire avant d'être occidental. Et c'est cette mutation-là qui est, je pense, Al-Qaïda et Daesh, les djihadistes, vous savez, ils ont une identité politique, on le rappelle rarement. Mais c'est très simple en matière de mode d'action. Ce sont les seuls qui font des attentats suicides. Hein. Mais derrière, la désignation de l'ennemi principal a effectivement évolué entre Daesh et Al-Qaïda. C'est l'ennemi chiite qui a pris le premier rang. Et il se trouve que cet ennemi chiite, aujourd'hui dans le théâtre syro-irakien, il est soutenu en Irak par les Américains, mais en Syrie par les Russes. Il faut bien dire aussi le rôle des Russes et des Iraniens dans l'exacerbation de la crise syrienne, dans le fait que ce permis de tuer qui a été donné à Bachar el-Assad par la communauté occidentale qui se refuse d'intervenir. C'est ça le paradoxe, si vous voulez. On dit quelquefois les Américains sont trop intervenus en Irak et pas assez en Syrie. Mais c'est ça qui s'est passé. La mutation qui nous permet de cerner la différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est la mutation de l'imaginaire qui permet de représenter l'ennemi absolu. Et actuellement, ce sont des chiites soutenus par des puissances étrangères, les Américains en Irak, les Russes en Syrie.
Restons sur la Syrie, Adam Bachko. Je parlais tout à l'heure des printemps arabes. C'est vrai que très vite, après la révolte populaire en Syrie, Al-Qaïda s'est installé en Syrie avec le front al-Nusra, Jabhat al-Nusra, qui apparaît au nord-ouest du pays. Et puis en quelques mois, il va s'imposer, il va être finalement l'une des plus importantes forces armées dans cette guerre civile. Et il se trouve que le 28 juillet dernier, le front al-Nusra se rebaptise et devient le front Fatah al-Sham. Écoutez.
Nous commandons en chef de Jabhat al-Nusra, en accord avec notre ligne de conduite générale et avec les directives de notre chef suprême, déclarons servir le peuple d'Al-Sham dans son djihad. Nous allégerons ainsi le poids pesant sur les épaules du peuple, sans compromis ni sacrifice dans notre foi solide. Nous utiliserons toute la légitimité des lois islamiques nécessaires pour l'achèvement de ces objectifs. Nous nous efforçons de combler les différences entre le groupe de Mujahideen et nous-mêmes et espérons former un corps unifié dont la base sera la charia, unifiant en masse le peuple d'Al-Sham.
Adam Bachko, je voudrais qu'on comprenne cette prise de distance par rapport à Al-Qaïda, qui s'oppose quand même à l'hypothèse qu'on se propose d'interroger aujourd'hui, d'une forme de retour en force d'Al-Qaïda, même si, on l'a bien compris, en réalité, il n'avait jamais disparu. Mais tout de même, pourquoi finalement cette rupture? Alors, ce n'est pas une rupture directe, mais pourquoi ce désir de rebaptiser le mouvement et d'une certaine manière, quand même, de prendre du champ par rapport à Al-Qaïda? Adam Bachko.
Je crois que quand on comprend ce qui s'est passé en Syrie avec le choix du Jabhat al-Nusra de se séparer formellement d'Al-Qaïda, on comprend en quoi c'est pas un affaiblissement d'Al-Qaïda. C'est plutôt lié à la dynamique propre à ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire que le groupe Jabhat al-Nusra qui a émergé quelque part en tant que branche d'Al-Qaïda propre, faite majoritairement de Syriens lors de la scission avec l'État islamique en mars 2013, s'est positionné à partir de mars 2013 dans un contexte national. C'est un mouvement qui s'est allié à d'autres mouvements nationaux, Ahrar al-Sham étant le mouvement central du nord de la Syrie avec qui Jabhat al-Nusra s'est allié. Et la stratégie de Jabhat al-Nusra dans ce contexte-là a été assez complexe. On l'a vu tergiverser entre des affrontements avec des groupes syriens de l'insurrection, des propositions de coalition, des mécontentements, qui étaient souvent liés d'ailleurs à la manière dont les Américains s'ingéraient dans l'insurrection syrienne, en proposant à des groupes de s'armer en échange de l'arrêt des combats contre Bachar el-Assad pour se battre contre l'État islamique. Quelque chose qui est extrêmement, qui vraiment apparaît à l'intérieur de la Syrie comme une manipulation. Le moment où Jabhat al-Nusra prend la décision de se séparer formellement d'Al-Qaïda, je pense qu'on l'a pas assez souligné, on a beaucoup trop regardé ça comme un mouvement formel. C'est pas vrai. Il y a quelque chose ici de fondamental. Il y a quelque chose ici d'une mise en cohérence de l'insurrection syrienne au nord de la Syrie, avec une idéologie qui est beaucoup plus radicale qu'elle l'était en 2013, mais c'est logique vu l'intensité des combats, vu la situation tragique dans laquelle cette insurrection est prise et dans laquelle elle se bat. Mais c'est vraiment un moment où cette insurrection se pose sur un niveau national, se regarde comme ayant des objectifs syro-syriens. Et à ce niveau-là, si l'idéologie de Jabhat al-Nusra ne change pas, et c'est là où Al-Qaïda ne s'affaiblit pas, c'est-à-dire que le programme politique que porte Al-Qaïda reste et devient même de plus en plus populaire en Syrie pour des raisons logiques, pour des raisons évidentes.
Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous confirmez, mais j'ai lu hier dans un papier que visiblement al-Nusra récupérait de plus en plus de combattants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on parle de 3000 combattants qui auraient rejoint les rangs d'al-Nusra depuis le début de l'année. Ce qui voudrait dire justement ce que vous êtes en train de dire, c'est que non seulement on ne parle pas d'un affaiblissement d'Al-Qaïda, mais en réalité d'un retour en force.
Sauf que al-Nusra n'est plus Al-Qaïda dans le sens où ça n'est plus un mouvement dont l'objectif est de mener des attentats en Europe ou en Occident, de débarrasser le Moyen-Orient de la présence des Européens et des Occidentaux. C'est un mouvement qui a mis, en tout cas à court et moyen terme, mais c'est quand même très important, comme objectif, la prise de Damas. Et donc c'est un mouvement qui, de ce point de vue-là, se positionne comme le mouvement combattant véritablement le régime. Et là, oui, ça le rend populaire, puisque en comparaison énormément des mouvements modérés ces mouvements qui issus des manifestations de 2011, qui ont été très peu soutenus, qui ont été beaucoup manipulés par les acteurs régionaux, Jabhat al-Nusra est apparu comme l'acteur qui se bat, qui est parvenu aussi à se mettre en scène comme l'acteur qui se bat, qui est loin des manipulations, qui vraiment ne lâche jamais sa position de combat.
Mais là, je vous propose d'aller encore un peu plus loin, parce que vous dites, voilà, rappelons que le but d'al-Nusra, c'est de faire tomber Damas, et du coup, finalement, on reste dans la stratégie qui était celle de l'État islamique. Mais est-ce que finalement, derrière ça, il n'y aurait pas autre chose et d'une certaine manière, l'objectif de revenir à la stratégie de base d'Al-Qaïda, qui serait effectivement de retoucher l'ennemi lointain avec, comme base arrière, peut-être la Syrie. Je vous pose cette question-là parce que certains experts, notamment du côté des États-Unis, nous expliquent que l'ambition d'Al-Qaïda, c'est justement de faire de la Syrie son nouveau fief. Alors, j'ai une information hier que j'ai trouvée sur un site américain, j'ai pas pu la croiser, donc je vous la livre. Il faut prendre évidemment des pincettes, mais visiblement sera arrivé ces dernières semaines du côté de la Syrie un homme qui s'appelle Saif al-Adel. Alors, c'est pas son vrai nom c'est Mohamed Salah al-Din Zaidan, qui serait un ancien compagnon de Ben Laden et qui aurait débarqué là en Syrie avec toute une équipe pour renforcer justement le leadership local d'al-Nusra, et donc avec peut-être cette idée de faire de la Syrie, j'allais dire, le nouvel Afghanistan, c'est-à-dire la base arrière du djihadisme mondial. Est-ce que cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez, Adam Bachko?
Alors, juste pour qu'on soit bien clair, ça reste très différent de l'État islamique qui n'a pas comme objectif de prendre Damas. Au contraire, l'État islamique a toujours...
Oui, d'al-Nusra, j'ai dit.
D'accord. Mais donc, que ce scénario soit probable, oui, enfin, il est totalement possible, il est totalement compatible avec la manière dont Al-Qaïda fonctionne. Le problème, c'est que, premièrement, on a extrêmement peu d'éléments. On avait déjà des bruits sur l'existence d'une cellule visant à faire des attentats internationaux, la cellule Khorasan, en 2014-2015, et qui a été bombardée au nord de la Syrie. On a toujours eu des difficultés à avoir des informations en source ouverte sur ces questions. La deuxième chose qu'on peut dire ici, c'est que, et là, l'Afghanistan est extrêmement intéressant comme cas précédent. Le problème principal qui s'est posé avec Al-Qaïda en Afghanistan a été moins l'attachement des talibans à Al-Qaïda que la stratégie que les Occidentaux ont eue d'exclusion du régime taliban de la sphère internationale. Et je pense qu'on a eu à plusieurs reprises les possibilités de négocier, et dans les années 90, et plus récemment avec l'insurrection talibane, la possibilité de rompre des liens avec Al-Qaïda. C'est une insurrection qui, à plusieurs reprises, a laissé dire dans des discussions informelles qu'elle serait prête à rompre ses liens si on lui reconnaissait une légitimité. Il me semble que l'exemple des talibans est intéressant parce qu'il révèle que le passage à des objectifs nationaux peut avoir comme effet très souvent d'amener des mouvements à accepter de rompre avec un mouvement comme Al-Qaïda. Mmh. Et donc, le fait que la Syrie puisse devenir une base arrière d'Al-Qaïda, oui, possiblement, parce qu'il y a une vraie dynamique sociale pour que Al-Qaïda...
Et ça correspondait à la stratégie fondamentale
absolument, de la branche mère d'Al-Qaïda. Ouais, ouais. Ce serait vraiment la stratégie
d'Al-Qaïda. On va en reparler dans un instant des talibans et de l'Afghanistan, mais je voudrais votre avis, François Burga, sur cette hypothèse qui serait que la Syrie serait peut-être le futur fief d'Al-Qaïda. François Burga.
Le mode de raisonnement me gêne un petit peu, parce qu'on peut comme ça... Mm-hmm. Faire des hypothèses sur l'imaginaire de n'importe lequel des acteurs dans le monde musulman. Mmh. Et je suis sûr que vous trouveriez des gens qui disent « Ouais, ça serait bien si on avait un État, rien que pour nous, qui permettrait d'affirmer notre supériorité. » Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Moi, je préférerais qu'on reste quand même dans le contexte du conflit syrien. Il s'est passé quelque chose d'absolument essentiel à la fin du mois de juillet. On l'a peu souligné. Mmh. Les groupes armés... de la révolte contre Bachar el-Assad ont réussi à faire ce qu'ils n'avaient pas réussi depuis 4 ans, c'est-à-dire s'unifier, et 22 groupes, c'est-à-dire l'essentiel de la mobilisation militaire contre Bachar el-Assad, a trouvé un dénominateur commun politique, un agenda politique commun qui ramène tous les combattants par une phase nationale, c'est-à-dire que Jabhat al-Nusra, qui s'est avéré être, il faut le dire, la force principale, a accepté de déconnecter son agenda politique de son logiciel internationaliste. J'ai dit qu'un djihadiste, c'était celui qui commettait des attentats suicides. Mais il y a une autre définition, c'est quelqu'un qui travaille dans une temporalité et une territorialité qui est différente de celle de la crise syrienne du renversement de Bachar el-Assad. Eh bien, Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, a accepté conjoncturellement d'inscrire son action dans le cadre d'une mobilisation qui est nationale, c'est-à-dire prendre Damas, ce qui n'est pas le cas de Daesh stricto sensu. Daesh a toujours fonctionné sans limite temporelle et territoriale. Donc là, nous avons une situation qui ponctuellement pourrait permettre d'affaiblir le régime. Et je trouverais dommage que l'on fasse le raisonnement qui est celui des Américains. Effectivement, les Américains nous disent il est hors de question de soutenir l'opposition syrienne actuelle parce que nous estimons qu'une partie des combattants a gardé une vision politique qui est trop opposée à la nôtre. Moyennant quoi, les Américains, c'est ce qui a fondé le fait qu'ils fonctionnent maintenant objectivement avec les Russes. C'est-à-dire dans non seulement... tous contre Daesh et seulement contre Daesh, mais tous contre Daesh et tous les groupes qui sont l'essentiel de la mobilisation militaire anti-Assad. Donc, oui, peut-être bien. Oui,
peut-être, mais peut-être pas.
De stratégie long terme. Mais pour l'instant, ce qui peut nous permettre de sortir de la crise syrienne, c'est un retour à la négociation entre les deux acteurs du centre, les groupes armés qui se sont coalisés depuis le mois de juillet et le régime. Or, l'attitude américaine, en affaiblissant exclusivement la frange djihadiste de l'opposition et en se refusant à affaiblir le régime, nous éloigne d'une sortie de crise. Alors moi, je préférerais qu'on ait ce raisonnement extrêmement réaliste. La sortie de crise nécessite que le régime soit affaibli militairement et donc que les gens de l'armée syrienne libre, qui étaient nos interlocuteurs, soient respectés dans leur choix de s'allier conjoncturellement avec l'héritier de Jabhat al-Nusra.
Bon, c'est entendu. Moi, je propose des hypothèses et puis vous les analysez ensuite. On va prendre la direction justement de l'Afghanistan, Adam Bachko. En mai dernier, le mollah Akhtar Mansour, qui était donc le chef des talibans, a été tué lors de frappes de drones américains au sud-ouest du Pakistan voisin. L'année dernière, c'est son prédécesseur, le leader historique des talibans, le mollah Omar, qui avait perdu la vie. Depuis, les talibans ont un nouveau chef, qui est Aibatullah Akhundzada, qui est fils d'un théologien, un originaire de Kandahar, donc un véritable pashtoun. Et puis très vite, quelques jours seulement après cette nomination, le chef d'Al-Qaïda, cette fois, Ayman al-Zawahiri, a prêté allégeance au chef des talibans. Écoutez.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ila amir al-mu'minin, al-mulla Akhtar Muhammad Mansour, hafidhahullah,
Voilà, on vient d'entendre Akhtar Mansour. Donc, en fait, en tant qu'émir d'Al-Qaïda, je vous donne mon allégeance en renouvelant la tradition instaurée par notre chef Oussama Ben Laden. Voilà ce que déclare Zawahiri dans ce message audio. Adam Bachko, je voudrais comprendre plusieurs choses. D'abord, comment comprendre cette allégeance? Est-ce que ça veut dire que finalement, dans la hiérarchie, le chef des talibans est au-dessus d'Al-Qaïda, pour le dire de façon très triviale? Et puis, la question qu'il y a derrière, peut-être plus intéressante, plus profonde, c'est la question de savoir si le chef actuel d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, l'aura, la légitimité, les moyens de redonner à Al-Qaïda ce rôle de maison mère du djihadisme mondial qu'il a peut-être perdu.
Le fait que le chef d'Al-Qaïda prête allégeance au chef des talibans, c'est en fait absolument, comme d'ailleurs le dit Zawahiri, une continuation des relations entre Al-Qaïda et les talibans. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les talibans sont au-dessus d'Al-Qaïda. Ce sont deux mouvements qui sont séparés. Mais dans l'alliance qui existe entre ces deux mouvements, celle-ci ne peut être faite qu'à condition que Al-Qaïda reconnaît la revendication des talibans à la suprématie, d'une part en Afghanistan, et d'autre part, le mouvement taliban, à la suite de Mullah Omar, avait, dans ce geste qu'il faut rappeler, qui était un geste qui a eu des conséquences très importantes, amené à déclarer Emir al-Mouminin, chef des croyants, le chef des talibans. Et cette tradition reste, c'est-à-dire que les talibans se présentent comme un mouvement de pointe en termes de légitimité islamique. Donc, d'une part, ça ne change rien. C'est au contraire une continuité avec les dynamiques qui existaient avant. Par ailleurs, je pense que la capacité d'Al-Qaïda à grandir a assez peu à voir avec le charisme de son chef. C'est au contraire une organisation où son expansion a été plus liée d'abord à la visibilité de ses actes, mais aussi à la manière dont les différents pays musulmans ont été déstabilisés dans les dernières années.
C'est pas seulement une histoire de charisme, Adam Bachko, pardonnez-moi de vous couper, mais par exemple, Al-Zawahiri ne dispose pas des mêmes moyens financiers que ceux dont disposait Ben Laden. Il n'y a pas derrière lui l'une des plus grandes fortunes d'Arabie Saoudite. Donc c'est pas seulement une histoire de charisme.
Non, mais de toute façon, la manière dont s'étend le mouvement dépend de ses branches à chaque fois. Et si vous regardez la manière dont ACMI a pris de l'importance dans le Sahel, c'est d'abord le résultat de politique étatique locale et occidentale, dont la politique française, qui a amené ACMI à s'imposer à un moment comme le mouvement le plus important de la révolte Touareg. De même que si Jabhat al-Nusra s'est imposé en 2014-2015 comme le mouvement le plus important au nord de la Syrie devant des mouvements locaux qui étaient beaucoup plus forts, quand on fait du terrain avec Gilles Ronceau et Arthur Kenney en vue de notre ouvrage, Jabhat al-Nusra représentait quelques milliers, 1000, 2000 hommes, grand maximum, alors que d'autres mouvements comptaient des dizaines de milliers d'hommes. Le retournement de cette dynamique, c'est d'abord le résultat des stratégies américaines de bombardement de drones, de stratégies locales, de la décrédibilisation de tout autre processus. On a oublié de parler de quelque chose de central, c'est le coup d'État en Égypte. Je pense que c'est vraiment un élément central. Le coup d'État en Égypte a amené l'idée qu'il n'y avait pas de possibilité d'entrer dans la vie politique de manière démocratique pour les mouvements islamistes. Et vous avez une déclaration des talibans dans les lendemains du coup d'État en Égypte, disant « Nous avons donc bien la preuve que la lutte armée est le seul moyen d'avoir un État correspondant à notre idéologie. » Donc vous avez une dynamique générale où un mouvement comme Al-Qaïda a un terreau.
On va parler à présent du Yémen. Alors, il faut rappeler quelques éléments. D'abord, au printemps 2015, l'Arabie Saoudite, on s'en souvient, avait lancé cette grande opération militaire contre l'insurrection Houthi. L'objectif politique affiché, c'était de remettre au pouvoir l'ancien président Hadi, qui a trouvé refuge dans la ville d'Aden. Mais il y avait aussi peut-être derrière un autre objectif, plus intérieur, c'est-à-dire asseoir le nouveau régime saoudien, mis en place après la mort du roi Abdallah en janvier 2015, et qui a laissé sa place, on s'en souvient, à son demi-frère Salman, sachant qu'en réalité, l'homme fort du pays, c'est Mohamed Ben Salman, qui a d'ailleurs lancé cette guerre. Quoi qu'il en soit, Riyad est parvenu à emmener dans cette opération militaire un certain nombre de pays de la région, Bahreïn, Jordanie, Qatar, Maroc, Égypte justement, le Koweït, Soudan, avec évidemment les États-Unis en soutien pour fournir en tout cas des renseignements. Et depuis 18 mois, la coalition arabe mène des raids aériens meurtriers. On parle aujourd'hui de 6600 morts, dont une grande majorité de civils.
Quand mon enfant est tombé malade, je n'ai pas pu venir le faire soigner. Mon mari ne pêche plus, il dit qu'il a peur des bombardements. Donc il reste à la maison et nous n'avons plus rien à manger. Nous avons commencé à voir ce genre de cas en avril dernier. Dans cet hôpital, on pourrait traiter 10, 20 cas peut-être maximum. Maintenant, le nombre a augmenté et ça peut aller jusqu'à 120 enfants par mois.
192 centres dédiés au traitement de la malnutrition ont fermé à cause du manque d'essence ou du conflit incessant ou parce que les hôpitaux ont été frappés par des raids aériens ou attaqués par des factions armées ou parce que le personnel médical a été déplacé.
Ah, des conséquences humanitaires et sanitaires désastreuses. On va retrouver un nouvel invité par téléphone. C'est Laurent Bonnefoy. Bonjour Laurent Bonnefoy.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes un spécialiste des mouvements salafistes et de la péninsule arabique. Alors avant de s'intéresser à la place vraiment et au poids d'ACPA, c'est-à-dire Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dans cette population yéménite sur ce territoire, il faut quand même rappeler ce drame humanitaire qui est en train de se jouer. Officiellement, Riyad ne vise que des cibles militaires, mais sur le terrain, en réalité, les choses sont différentes. Regardons par exemple ce qui s'est passé le 15 août dernier. Un chasseur saoudien qui a pris pour cible un hôpital de Sana'a, la bombe atterrit dans la cour, pulvérise le bloc des urgences, emporte la vie de 19 personnes. La situation humanitaire est catastrophique. Quasiment 7000 morts, 31 000 blessés, sans compter évidemment les millions d'habitants qui souffrent de malnutrition. On est devant une crise humanitaire majeure.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'ONU qui avait conservé pendant plusieurs mois le chiffre de 6000 morts que vous avez donné a brutalement augmenté son estimation à 10 000 il y a une dizaine de jours. Ce n'est là qu'une estimation, tout simplement parce que ce chiffre reflète les victimes qui sont rassemblées dans les instituts, enfin dans les services de santé. Et comme il y a très peu d'hôpitaux, plus d'infrastructures routières, des ponts sont détruits, eh bien on peut estimer que le chiffre est largement en dessous de la réalité.
Alors on imagine assez facilement combien cette violence bien sûr radicalise les yéménites, on aperçoit dangereusement combien elle pourrait faire le jeu des extrémistes et notamment celui des djihadistes yéménites. Au Yémen, on a, Laurent Bonnefoy, à la fois des djihadistes qui se revendiquent de Daesh, mais aussi bien sûr les djihadistes rattachés à Al-Qaïda, donc l'ACPA. Qui tire finalement le plus grand profit de cette guerre entre Daesh et ACPA? C'est terrible de poser la question ainsi, mais je vous la pose.
Alors c'est les deux mouvements hein, qui bénéficient très largement d'un contexte qui leur est favorable, tout simplement parce qu'il y a une situation d'affaiblissement de l'ensemble des institutions qui partout dans la région bénéficient très largement aux acteurs dits djihadistes. Et puis, par ailleurs, on a une lecture confessionnelle qui est faite du conflit, y compris par les Saoudiens, qui s'y est très bien à la grille de lecture des acteurs djihadistes. Après, conjoncturellement, entre Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Daesh, on a en effet, et là c'est peut-être une spécificité yéménite, une résistance assez évidente d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui s'appuie sur un ancrage social et territorial qui est beaucoup plus fort que Daesh. Daesh a mis en place une stratégie d'attentat, notamment ciblant des mosquées zaïdites, c'est-à-dire affiliées à la minorité dite chiite, donc en entrant directement dans une logique confessionnelle. Alors qu'Al-Qaïda a, d'une certaine manière, refusé cette logique de combat confessionnel et se concentre essentiellement sur des cibles dites gouvernementales.
Mais est-ce que ça lui permet de ramener dans ses rangs des combattants? On dit par exemple qu'ACPA a multiplié par 4 ses effectifs ces derniers mois, qui tournent autour de... Alors je ne sais pas si les chiffres sont corrects, évidemment c'est très difficile de mesurer, mais on parle de 4000 combattants aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait impossible de savoir, tout simplement, parce que l'allégeance à Al-Qaïda dans la péninsule arabique...
Mais dans la dynamique, est-ce que la dynamique peut être du côté d'ACPA?
Oui, elle peut l'être, tout simplement, parce qu'il y a cet ancrage territorial. Et pendant longtemps, c'est-à-dire pendant quasiment une année, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dans une alliance qu'elle avait formée avec certains groupes tribaux dans l'est du pays... a tenu ce qui est la cinquième ville, à savoir Al-Muqalla, qui a ensuite été reprise par les forces pro-Hadi, appuyées par notamment les Émirats Arabes Unis, Celles-ci ont affirmé que dans les combats, ils avaient éliminé 800 combattants liés à Al-Qaïda, ce qui semble en fait hautement improbable, tout simplement parce que on n'en a vu aucune image et que ces chiffres-là sont très vraisemblablement exagérés. Par ailleurs, Al-Qaïda a prétendu qu'il y avait eu en fait bien davantage un retrait stratégique. Ce qui là semble bien plus vraisemblable, et la structure, on va dire, ou le maillage militant d'Al-Qaïda est très largement maintenu, tout simplement parce que il y a une histoire longue hein, de l'organisation au Yémen et un certain nombre de succès stratégiques.
D'accord. Vous parlez de retrait stratégique, juste un instant, parce que ces derniers mois, il y avait eu d'abord une avancée. Al-Qaïda s'était emparé d'un certain nombre de villes, Azan en février, puis Zinjibar, Chokra, et puis peu à peu, on a assisté à un recul progressif. Justement, Zinjibar, qui est quand même une grande ville côtière du sud, qui a été reprise. Même chose pour Jahar, d'où les djihadistes se sont retirés. C'est pas parce qu'ils étaient en difficulté, c'est un retrait stratégique.
C'est évidemment difficile. Il y a, la prise de contrôle territorial a amené effectivement des difficultés pour le leadership d'Al-Qaïda, tout simplement parce qu'en ayant une assise territoriale, il est devenu plus facile, notamment pour les drones, d'éliminer un certain nombre de leaders. Mais après, une fois qu'on a dit qu'il y a ces retraits stratégiques, on ne sait pas grand-chose ou pour ainsi dire rien de la réalité des soutiens. Par ailleurs, il faut d'une certaine manière comprendre que les allégeances ou la proximité avec Al-Qaïda n'est en aucune manière exclusive. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'organisation qui semble être en tant que telle en retrait, mais les soutiens ou bien la proximité d'un certain nombre de groupes tribaux et leur capacité à venir ensuite appuyer l'organisation en tant que telle n'est pas nécessairement affectée. Et je pense d'une certaine manière, la grille de lecture qui est celle d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique a de beaux jours devant elle, tout simplement parce qu'il y a ces antécédents, une efficacité ancienne du combat qui montre que l'organisation a fait ses preuves et a une certaine cohérence et stratégique et tactique d'une certaine manière que les autres groupes n'ont pas nécessairement.
Je voudrais me tourner vers François Burga, qui est toujours avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence. François Burga, votre regard sur cette guerre au Yémen, qui était évidemment un facteur de prolifération du djihadisme, et toujours avec cette question de savoir, au fond, à qui ça profite, et est-ce que ça pourrait finalement faire le jeu d'Al-Qaïda? C'est un petit peu, en tout cas, ce que semble nous dire Laurent Bonnefoy. Finalement, Al-Qaïda pourrait avoir un futur plus assuré, une fois encore, sur ce territoire yéménite, François Burga.
Oui, je vais vous redire ce que je vous ai dit en début de d'émission, et je suis d'accord avec je sais que Laurent Bonnefoy est d'accord avec moi sur cette question. C'est pas une vraie problématique, la concurrence entre Daesh et Al-Qaïda. Ce qui compte, c'est de savoir si des solutions institutionnelles crédibles vont être mises en œuvre au Yémen, et que la superficie des groupes radicaux va rétrécir. Je voudrais juste rajouter à la complexité de l'analyse la nouveauté qu'ont apporté les deux dernières années dans le paysage du programme des groupes radicaux sunnites au Yémen, c'est que auparavant les groupes radicaux Al-Qaïda combattaient le régime de Sanaa, non pas en tant qu'il était chiite, ce qu'il n'était pas, mais en tant qu'il cédait aux exigences sécuritaires que lui imposaient les États-Unis. À partir de janvier 2015, moi je me souviens, j'avais fait un commentaire ironique, j'avais dit « on ne pourra plus reprocher désormais au gouvernement de Sanaa de ne pas combattre, de ne pas mettre du cœur à l'ouvrage en combattant Al-Qaïda, parce qu'il y a désormais une dimension sectaire, il y a désormais une dimension d'opposition sectaire, puisque si on le veut, même si ça correspond pas exactement à toute la réalité, on peut désigner le gouvernement des Houthis comme étant un gouvernement chiite. Hein. Donc on va dire que à la complexité du champ d'action des groupes radicaux sunnites au Yémen, s'est ajouté une dose de confessionnalisation supplémentaire, puisqu'on peut maintenant retrouver quelque part la configuration qu'il y a en Irak, la configuration qu'il y a en Syrie, c'est-à-dire un pouvoir qui est soutenu par l'Iran. Hein. Et donc ça, c'est un... Bon, ça ne résume pas la la crise. Il ne faut pas l'enfermer. La preuve, c'est que les groupes sunnites radicaux s'en prennent aussi au président qui est soutenu par les sunnites saoudiens. D'accord ?
Oui, oui,
donc on
absolument.
Voit bien que ce n'est pas la variable sectaire qui explique tout.
En
mais
tout cas, ça n'explique
si
pas tout.
Si on veut
oui,
avoir
oui, oui.
un paysage affiné, il faut dire que les dernières, la crise yéménite est entrée dans une phase où la variable confessionnelle est devenue beaucoup plus explicite qu'elle ne l'était par le passé.
Merci beaucoup, en tout cas, François Burga, à vous, et un grand merci à Laurent Bonnefoy qui était également avec nous par téléphone. François Burga, je rappellerai deux de vos ouvrages, L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda et Comprendre l'islam politique. Un grand merci également à vous, Adam Bachko, de nous avoir accompagnés, éclairés ce matin. Je rappellerai quant à vous votre ouvrage que vous avez coécrit avec Gilles Doron-Soro, Syrie, anatomie d'une guerre civile, aux éditions du CNRS. Et j'oublie le troisième auteur, vous allez lui rendre. C'est
Arthur Quenet.
Arthur Quenet. Merci beaucoup, Adam Bachko. Signaler aux auditeurs que hier était remis le prix Brienne du livre géopolitique de l'année, qui est un prix soutenu par France Culture. Il a été créé en 2013. Ce prix Brienne du livre géopolitique distingue des auteurs dont le livre permet d'appréhender le nouvel échiquier mondial et de rendre lisibles les processus géopolitiques et géostratégiques des nations. Ce qui nous intéresse évidemment au plus haut point ici à Culture Monde, c'est présidé par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, organisé par l'association Lire la Société. Ce prix Brienne du livre géopolitique, il est décerné par un jury constitué de spécialistes, de chercheurs, d'élus, de journalistes, de responsables. Et évidemment, cette année, vous attendez de savoir qui l'a remporté, ce prix. Eh bien, c'est Jean Guinel et Bruno Tertrais pour Le Président et la Bombe, qui est paru chez Odile Jacob. Que contient donc la mallette nucléaire, cette petite valise noire que porte l'aide de camp qui accompagne partout le président de la République? C'est à cette question que le journaliste Jean Guinel et le politologue Bruno Tertrais tentent de répondre dans cet ouvrage riche d'anecdotes, de révélations historiques et évidemment d'analyses. Ils ont donc eu le prix Brienne cette année. Il est 11h. Pas tout à fait 53 minutes, mais 11h53 minutes, c'est un événement sur France Culture, dans Culture Monde, puisque c'est le moment de Tour du Monde des Idées de Brice Couturier.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, on parle de téléphone portable, de tous ses effets depuis le début de la semaine, et la question qu'on va se poser maintenant, c'est celle de l'impact de la technologie sur le développement humain, Brice.
La question est d'importance parce qu'elle est corrélée à la notion même de progrès. Et ce n'est pas un hasard si le progressisme en tant qu'idéologie a culminé au cours du 19e siècle avec les philosophies d'Auguste Comte ou de Karl Marx. Jamais, en effet, le rythme de l'innovation technologique n'avait atteint celui que nous avons connu en Occident entre la Révolution et la guerre de 14. Les deux guerres mondiales ont rendu nos philosophes beaucoup plus prudents quant aux liens qui existeraient, selon Condorcet, entre l'avancée des sciences et des techniques d'une part et puis l'état de civilisation atteint de l'autre. Une bonne partie de la réflexion de l'école de Francfort portait précisément sur le dévoiement de la raison émancipatrice en raison instrumentale à l'époque des totalitarismes. Et bien, dans leur livre « Le deuxième âge de la machine », Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee résument sous la forme d'un graphique la progression dans le temps de l'indice de développement social humain. Et bien, la courbe, Florian, est saisissante. Elle reste pratiquement plate à partir de l'an 6000 avant Jésus-Christ, enfin 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'époque de la découverte des forces du buffle pour tirer les charrues. Et puis soudain, en partant de l'introduction de la machine à vapeur de Watts en 1775, cette courbe, elle semble grimper à angle droit jusqu'au ciel. Cela pourrait-il s'arrêter? Eh bien, la thèse des auteurs est simple. Grâce aux robots et au numérique, nous devrions connaître l'équivalent de la révolution industrielle des 19e et 20e siècles. L'automatisation n'est certes pas une nouveauté, ce qu'il est, c'est la capacité nouvelle de ces robots à apprendre très rapidement à accomplir des tâches compliquées. Ils se déplacent déjà de manière autonome, ils peuvent interagir avec le monde physique. Or, on pensait, jusqu'à une période toute récente avec Moravetz, que le raisonnement de haut niveau est beaucoup beaucoup plus facile à reproduire et simuler par un programme informatique que les aptitudes sensorimotrices de l'homme. Tel n'est plus le cas. On sait faire les deux. Autrefois, on payait très cher des ingénieurs afin de les programmer. Eh bien, les robots de la nouvelle génération apprennent en une heure, auprès d'un ouvrier, comment le seconder dans toutes ses tâches. Mais surtout, le robot peut travailler 24 heures sur 24 et son employeur ne lui paie pas de salaire ni ne contribue aux caisses sociales. De là à penser que les robots vont prendre la place des ouvriers et techniciens.
Chers clients, bienvenue dans le restaurant des robots.
Voilà votre commande. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, passez votre main sur ma tête. Bon appétit.
Tout ça est absolument effrayant, Brice. Est-ce qu'on peut dire pour autant que nous allons vivre une époque de grandes inventions telles que celles qu'ont connues nos devanciers du 19e et du 20e siècle, Brice ?
Eh bien, il y a à ce sujet justement, Florian, un énorme débat. Tout d'abord, il faut bien réaliser que l'innovation fait toujours l'objet de résistance. Le professeur Calestous Juma, qui fait partie des 100 Africains les plus influents dans le monde, a publié récemment un long commentaire d'un livre que je n'ai pas lu, intitulé « Innovation and its discontents », l'innovation et ce qu'elle fait grogner. Il y relève que les grandes découvertes ont été très généralement reçues par les pouvoirs établis avec la plus extrême méfiance. Ils craignent la rupture du statu quo, la perte d'influence et d'autorité qu'entraînent ces innovations disruptives. Ainsi, ce n'est pas seulement pour des raisons religieuses que les califes ottomans ont interdit pendant 400 ans l'impression du Coran. Ils avaient médité le précédent créé par l'impression de la Bible dans le monde chrétien. L'imprimerie, en effet, avait déprécié l'autorité du pape au point de susciter les réformes protestantes. Et le sultan, lui, ne voulait pas s'exposer à un tel risque politique. Ensuite, poursuit Calestous Juma, les pouvoirs en place tendent à défendre les emplois existants. Lorsque, en 1727, le sultan a enfin autorisé l'imprimerie en Turquie, en la réservant toutefois aux textes profanes, les scribes et les calligraphes professionnels se sont révoltés. Autres exemples. En 1674, les Anglais obtinrent du roi Charles II la fermeture des maisons de café, au prétexte que cette substance réputée rendre les hommes stériles aurait dû être réservée aux plus de 60 ans. En réalité, bien sûr, vous l'avez compris, il s'agissait de protéger le commerce du thé qui venait de prendre son essor dans le pays. De la même manière, l'industrie laitière américaine a organisé au début du 19e siècle une campagne contre la margarine. Elle était accusée, figurez-vous, de provoquer des retards de croissance chez l'enfant et la calvitie chez l'homme. Les OGM, poursuit Calestous Juma, font l'objet aujourd'hui d'une même diabolisation. Cet été, 110 prix Nobel ont signé un manifeste dénonçant les campagnes de Greenpeace contre les organismes génétiquement modifiés. Ces scientifiques défendent en particulier, comme Calestous Juma lui-même, le riz doré conçu en 1999 pour répondre au manque de vitamine A qui touche aujourd'hui 250 millions de personnes dans le monde. Information peu reprise par la presse française. Passons. Mais les robots vont poser un problème autrement plus redoutable, puisqu'ils tentent à remplacer le travail humain à moindre coût. Comme l'observe le professeur d'économie de Berkeley, Bradford DeLong, les machines d'autrefois ont remplacé nos mains et nos pieds, celles d'aujourd'hui sont capables d'accomplir à notre place des tâches routinières de plus en plus complexes. Elles remplacent aussi nos yeux, nos oreilles, notre cerveau. Mais les robots sont aussi porteurs d'une bonne nouvelle, ils vont permettre de relocaliser certaines productions. On en parle demain.
On en parlera demain, Brice, avec grand plaisir. En tout cas, j'ai compris, il ne faut pas consommer de café et de margarine. Merci beaucoup, Brice. On vous retrouve évidemment demain. Très belle journée. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert pour La Grande Table.